Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 30, les volcans du soleil levant, deuxième partie. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et ceci est la deuxième partie de l'interview avec Jacques-Marie Bardanzeff, grand volcanologue français. Alors si vous avez raté l'épisode précédent, l'épisode 29, je vous invite de ce pas à l'écouter avant l'écoute de celui-ci. On y parlait des volcans de l'île de Kyushu au sud du Japon. Et pendant cette suite et fin, on va s'attarder sur les volcans de la grande île du Japon, l'île de Honshu. Puis à la fin, il y aura quelques petites anecdotes que Jacques-Marie va partager avec nous. Bienvenue à nouveau parmi les volcans du pays du soleil levant. Bonjour Jacques-Marie, bienvenue à nouveau sur les routes de l'Asie.
Bonjour.
Alors je rappelle Jacques-Marie que tu es un célèbre volcanologue et géologue français, professeur des universités et depuis 2013 chevalier de la Légion d'honneur pour tes nombreux travaux sur la volcanologie. Merci beaucoup à toi d'être présent à nouveau à mon micro, puisqu'on va continuer aujourd'hui de parler des volcans du Japon. Le premier épisode était vraiment passionnant, on a parlé des volcans de l'île du Sud, Kyushu, en particulier le Sakurajima, le Kirishima National Park, l'Azo, l'Unzen et puis aussi le site géothermique de Beppu. Et aujourd'hui, on va explorer les volcans de l'île principale du Japon. Et puis, à la fin, tu nous feras part aussi de quelques curiosités au nord et au sud du pays, toujours en rapport, bien sûr, avec la volcanologie. Alors maintenant, on va parler de Honshu, qui est donc la plus grande île du Japon, l'île où se trouve la capitale Tokyo, qui présente aussi de nombreux volcans. Et puis, il y en a un, évidemment, auquel tout le monde pense quand on parle de Japon et de volcans. Tout le monde ne sait peut-être pas que c'est un volcan, d'ailleurs, je pense à ça, parce que quand on voit la photo, bon, c'est effectivement un très très joli cône, mais tout le monde ne sait pas que c'est, peut-être que c'est un volcan, c'est le mont Fuji, alors qu'on voit sur beaucoup de photos, notamment à l'époque des cerisiers en fleurs, donc l'époque des sakuras, parce que c'est vrai que c'est très beau, on voit au premier plan les cerisiers en fleurs dans les champs, et puis voilà, en arrière-plan, ce magnifique volcan avec la partie supérieure qui est bien enneigée, ou totalement enneigée si c'est en hiver. Donc le mont Fuji, comment aborder cette beauté de la nature, parce que c'est quand même un très très beau volcan.
Oui, le mont Fuji, il est mythique. Alors, parfois les gens l'appellent le Fujiyama, qui n'est peut-être pas le meilleur nom. On parle également du Fuji-san. San, ça veut dire mont en japonais. Donc, en fait, le mont Fuji, c'est équivalent. Donc, la plupart des volcans dont on parle, souvent, on rajoute san. Quand on dit Unzen, on peut dire Unzen-san, c'est-à-dire le mont quelque chose. Donc, le mont Fuji, c'est un cône parfait. Donc, c'est au niveau volcanique, c'est peut-être un des plus beaux cônes, un des cônes les plus purs du monde. On peut le comparer peut-être au Mayon aux Philippines ou à Lagoa au Guatemala, mais il est très beau. Il culmine à 3776 mètres. Et effectivement, comme il y a des lacs à ses pieds, il se reflète dans les lacs et quand il est entouré des cerisiers en fleurs, bon, il est peint, il est loué, il a été notamment fait l'objet d'estampes par Hokusai, donc c'est des 30 ou 40 vues du mont Fuji, de différentes vues, différentes saisons. Voilà, il est très très beau. C'est un lieu de pèlerinage. Chaque année, il y a 2 millions de Japonais qui tentent l'ascension du mont Fuji. Tout le monde n'arrive pas au sommet. Les plus sérieux mettent une robe blanche pour arriver au sommet. Donc, c'est un lieu de pèlerinage. Et il faut savoir que le mont Fuji, il a fait une éruption. La dernière grande éruption, c'est en 1707. Donc c'est vrai que régulièrement, quand il y a un réveil de volcans japonais sur Honshu, on se dit mais le Fujiyama ou le Fujisan à côté, est-ce qu'il va pas se réveiller? Donc on l'attend, c'est sûr que maintenant ça fait donc plus de 3 siècles qu'il est, on va dire, endormi, donc il va se réveiller tôt ou tard. Donc voilà, c'est ce volcan, il est mythique et il a un repos, on va dire, gentil, mais qui n'est, comme on dit, il ne dort que d'un œil. On sait qu'il y a tout le temps un réveil. Quoi.
Et il n'y a aucune activité, ne serait-ce que des fumerolles ou il n'y a pas d'activité visible?
Ça, je ne peux pas dire. Moi, je ne suis pas allé au sommet du mont Fuji, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est. Mais par contre, il n'y a pas d'activité recensée au niveau magmatique. Je ne sais pas. Là, je laisse les grimpeurs qui iront là-haut. La surpose, elle est découverte. Je Je ne fais pas partie de voilà, encore des gens qui sont montés au sommet. J'espère bien le faire un jour, mais pareil, ça s'improvise pas comme ça. Il faut y consacrer un minimum de temps. Hein. Alors, il y a un autre volcan qui, lui, a fait parler de lui douloureusement récemment, qui est le deuxième plus haut sommet du Japon, hein, le mont Fuji. Il culmine à 3776 mètres, donc c'est le point culminant du Japon. Et il y a un volcan pas trop loin, qui est le deuxième plus haut sommet, hein, qui est à 3067 mètres, c'est le mont Ontake, donc on dit Ontake-san. Qui est pareil, un objet de pèlerinage, qui est un volcan qui est aussi recouvert de neige en hiver, hein, et qui a fait une éruption très brusque le 27 septembre 2014, donc il y a quelques mois, et c'était malheureusement un dimanche, et donc il a surpris des promeneurs, des randonneurs, des pèlerins qui étaient sur place, et il y a eu quand même 60 victimes, et 300 personnes qui ont été surpris et qui ont eu très peur. Alors ça a été une discussion à l'époque, parce que comment ça se fait qu'on n'ait pas pu prévoir cette éruption? Ben, c'est vrai, elle est venue très brusquement, je crois de l'ordre d'un quart d'heure, hein, pratiquement, c'est-à-dire la première petite secousse qui aurait pu faire comprendre que le magma que le magma bougeait plutôt, ou qu'il y avait une reprise d'activité. C'était un quart d'heure avant l'éruption elle-même, et c'était une éruption un peu particulière. On pense que ça n'a pas été une éruption magmatique, on pense que peut-être le magma a bougé ou peu ou pas, mais en tout cas le magma a surchauffé des eaux profondes, hein, des eaux phréatiques, et c'est vrai que ce volcan, il est très riche en lacs, en cascades, peut-être qu'il y avait eu des pluies juste avant, bref, le sol était gorgé d'eau, il y avait des nappes phréatiques en profondeur. Et simplement l'onde thermique du magma, sans même que le magma sorte, l'onde thermique du magma qui se propage surchauffe ces eaux profondes dans des poches, et l'eau devient vapeur. Et comme elle est confinée dans des poches, et bien à ce moment-là, il y a une surpression, un peu comme une cocotte minute qui explose. Et donc d'un seul coup, il y a une libération, et toutes les roches qui étaient au-dessus de la poche d'eau surchauffée a été pulvérisée en blocs et en cendres, et a donc recouvert la région. C'est ce qu'on a vu sur les photos. C'était un peu comme de la neige, sauf que c'était de la cendre grise. Et donc ça a surpris des personnes qui ont été, on va dire, assommées par les blocs, qui ont été asphyxiées par des cendres, par les gaz. Ça a été très, très rapide, et d'ailleurs très court. L'éruption n'a pas duré longtemps. Donc ça a été effectivement une surprise, bien sûr douloureuse, et on s'est dit, mais alors, est-ce que ça ne remet pas en cause la volcanologie? Ben non, c'est vrai qu'en général on monitore les volcans, comme on dit, on les surveille par des systèmes différents, notamment la sismique, c'est-à-dire qu'il y a des appareils sismiques, des sismographes qui sont sur le volcan, et quand le magma bouge, eh ben, les sismographes enregistrent des petites vibrations témoins de la montée du magma, c'est un peu comme une échographie du volcan. Et en général, quand ça commence à bouger, le magma, il met 48 heures à 72 heures pour arriver au sommet, donc on a le temps de réagir. Mais là, c'est une éruption qu'on appelle phréatique, hein, c'est-à-dire en fait liée à de l'eau surchauffée. Donc dans ces cas-là, ça ne prévient pas, c'est pas très important en volume, en énergie, mais c'est dangereux, surtout si les gens sont sur place. Et là, ce qui a eu la malchance, c'était que c'était un dimanche. C'était un jour de septembre, il faisait assez beau, donc il y avait des randonneurs sur place. Donc bien sûr, quand les gens sont sur le volcan lui-même, la moindre éruption, même mineure, devient dramatique. Si les gens avaient été, ça avait été un jour de semaine, il y aurait peut-être eu très peu de gens, voire même personne sur le volcan, on n'aurait même pas parlé. On aurait dit, voilà, il y a eu une explosion sur le monde, et pas une victime. À la limite, ça serait resté inaperçu, sauf les volcanologues l'auraient su sur leur réseau, mais ça n'aurait pas, bien sûr, été signalé dans les journaux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'avec les volcans, ben, il faut être modeste, il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri d'un... Surtout ces volcans qui sont actifs, ça peut aller très vite, faire une éruption phréatique, et là, on ne peut pas la prévoir, et c'est très rapide.
Ouais, non, c'est important de le rappeler. C'est vrai que cette éruption a été impressionnante, et en plus, il y a eu des vidéos, donc les randonneurs ont été capables de filmer l'éruption en temps réel, donc on voit bien ces nuages de cendres arriver sur eux. C'était assez effrayant, je dois dire, surtout après en avoir fait quelques-uns, après avoir fait l'ascension de certains volcans, de voir que ça peut se produire, voilà, en quelques minutes, sans prévenir, ça fait un peu froid dans le dos, ouais.
Surtout qu'on est sur place, qu'on est aux premières loges. Là, c'est des gens qui étaient dans les centaines de mètres autour, donc à ce moment-là, on est plus là-dedans. Effectivement, c'est un peu la fin du monde, quoi. Et c'est vrai que ceux qui s'en sont sortis, je pense, ont eu la peur de leur vie, et ils ont été, on va dire, un peu miraculés, hein. Donc tant mieux pour eux, hein, c'est vrai, mais je pense qu'ils n'oublieront pas.
Est-ce que tu penses que ça va remettre en cause les ascensions, la possibilité de faire de la randonnée dans ces endroits?
Ça a été discuté, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout interdire. C'est vrai que c'est le problème qui se pose aussi pour les montagnes, les problèmes d'avalanche, de glissement de terrain. Je crois qu'on ne faut pas non plus tout fermer. Effectivement, il faut être serein. Donc, quand il y a un volcan en éruption, on interdit bien sûr son approche. On ne peut pas non plus tout interdire. Donc, je crois que... Il faut accepter les choses. Il faut bien sûr dire aux gens, vous êtes sur un volcan actif, donc sachez que au moindre signe, on va dire anormal, faites demi-tour, prévenez. Effectivement, voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus interdire. Alors la montagne, bien sûr, a été interdite pendant quelques mois. Je ne sais pas où ça en est pour l'instant, mais moi, je pense qu'on ne peut pas non plus tout interdire. Sinon, effectivement, rapidement, on ne ferait plus rien. Donc, il faut simplement être conscient que de temps en temps, la montagne dit non, le volcan dit non. Bon ben, voilà, c'est voilà, ça, on peut pas aller contre.
Oui, il faut admirer la nature, mais il faut aussi la respecter, donc c'est important de le dire. Étape suivante, sur l'île de Honshu, je pense qu'on va parler de la région de Dakone, c'est ça ?
Voilà, alors, c'est pas très loin, hein, on va dire de Tokyo, c'est une centaine de kilomètres, donc c'est à l'échelle de, par exemple, un week-end ou trois jours, on va vers la région de Dakone, donc en voiture, c'est... dès qu'on sort de Tokyo, on est déjà un peu dans le Japon profond. C'est ça qui est étonnant, c'est que on est dans Tokyo, qui est une mégapole avec des échangeurs sur quatre étages, une ville gigantesque à plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre. Puis une fois qu'on est sorti, bah hop, on est un peu dans la campagne. Donc aller à Kone, c'est déjà un peu la villégiature, c'est un peu le repos. Donc on peut loger à Kone. Puis là, on est déjà plus dans ce que tu disais tout à l'heure, un peu dans le milieu bouddhiste. Il y a des temples, il y a des parcours un peu de un petit peu de réflexion, c'est un peu zen, voilà, on est dans le Japon profond. Et alors, quand on aime les volcans, on va à Owakudani, hein, ce qui veut dire la grande vallée bouillante. Donc là, souvent, c'est une manifestation hydrothermale permanente. Donc là, c'est organisé, c'est touristique. Donc à la fois, c'est la chaleur de la terre, mais c'est bien cadré. Donc bien sûr, il y a beaucoup de touristes, on n'est pas tout seul, il faut le savoir, mais bon, il y a une bonne ambiance, c'est sympa. Donc on va voir cette grande vallée, c'est un peu comme aller voir les geysers en Islande ou à Yellowstone, hein, c'est cadré. Donc ça fume de tous les côtés, ça bouillonne. Et là, donc la tradition, c'est vraiment de faire cuire ses œufs. Donc il y a quasiment un petit estanco, je veux dire plutôt une petite baraque où ils vendent des œufs. Donc on achète ces 6 œufs, on les fait tremper. Alors du coup, les œufs, comme c'est dans une mare qui est un peu soufrée, il y a des dépôts un petit peu argentés sur les œufs, parce que les œufs, effectivement... c'est un peu, on va dire, des dépôts de peut-être de sulfure d'argent ou je sais pas quoi. Donc, ça fait c'est un peu étonnant. Mm-hmm. Et alors, on a ses œufs tout noirs, un peu noirs dessus. Puis après, on casse la coquille, puis on mange ses œufs. Puis c'est très bon, c'est très sympa. Voilà, c'est la tradition. Puis voilà, c'est une bonne ambiance. C'est faire du volcanisme au rythme de la terre sans trop de difficultés.
D'accord. Non, c'est bien. Il y a un bon mix, j'ai l'impression, au Japon, de volcans difficilement accessibles ou complètement interdits, de volcans un peu plus accessibles mais quand même en activité, et puis de sites comme ça qui est vraiment ouvert à chacun. J'ai l'impression que il y a un peu pour tout le monde.
Voilà, il y en a pour tous les goûts, pour les grands, pour les petits, pour ceux qui veulent faire de la marche, pour les autres. Là, vous voyez, pour aller au Wakudani, il y a pas mal de marché. On arrive en voiture, il y a un parking, et puis après, c'est vraiment on marche quelques dizaines ou centaines de mètres, on est sur place, donc c'est bien aussi parce que tout le monde n'est pas sportif. Il y a aussi des gens plus âgés, des seniors ou des gens même, on peut imaginer quelqu'un handicapé pourra venir admirer la terre. Donc c'est bien aussi qu'il y ait des volcans accessibles pour chacun. L'un n'empêche pas l'autre, et donc là c'est l'occasion effectivement de se faire plaisir, de voir ce qui se passe. Et c'est vraiment ouvert à tous.
D'accord, c'est très intéressant. Et on va maintenant parler d'un autre volcan, d'une montagne qui d'ailleurs accueille une station de sport d'hiver. J'ai vu ça en préparant l'émission, c'est assez amusant. C'est le mont Zao.
Voilà, alors ça, le Zao, ça a été pour moi un coup de cœur. C'était une vieille histoire. Il se trouve que moi, mon père a toujours collectionné les timbres. C'était un passionné de timbres. Donc moi, quand j'étais gamin, je suis devenu aussi un passionné de timbres un petit peu passé à sa passion. Mais lui, il s'intéressait plutôt aux timbres français, aux monuments, aux personnages illustres. Enfin voilà. Et moi, du coup, j'avais m'intéressé à d'autres figurines. Donc bien sûr, passionné de sport, je collectionnais les timbres de sport, des Jeux olympiques, bien sûr. Également des cosmonautes, mais bien sûr de la géologie. Donc il y avait des timbres de minéraux, des timbres de fossiles, de dinosaures. Il y a aussi quelques timbres de volcans. Alors j'en avais quelques-uns, je les mettais de côté. Et j'avais un tout petit timbre. Il y avait marqué Nippon, donc je savais que c'était du Japon, mais on voyait une sorte de cratère avec un lac vert émeraude, vert jade, magnifique, mais je ne sais pas le nom de ce volcan. Il était peut-être écrit en japonais. Je m'étais dit, quand j'étais petit, je dis, ouais, si, j'aimerais bien un jour y aller, quoi. Puis petit à petit, je suis arrivé à le retrouver. Donc c'était le mont Zao, justement. Donc ça, pareil, c'est, on va dire, faut prévoir 2 jours de Tokyo, quoi, un jour aller, un jour retour, ou 2 jours et demi, c'est pas très loin, je dirais, c'est à 100-150 kilomètres, c'est quelques heures de route, et là, pareil, il y a une petite station au pied du Zao. Alors, soit c'est une station de sport d'hiver l'hiver, soit l'été. Moi, j'étais allé l'été, donc c'est une station toute simple. C'est un petit village touristique avec des petits hôtels sympas. Alors là aussi, traditionnel. Donc, on mange japonais, on vit japonais. Puis le mont Zao, on peut pareil y monter en voiture. Et après, il reste quelques centaines de mètres pour avoir le point de vue. Après, on peut faire un tour plus important. Mais là, pareil, c'est vraiment accessible. Et alors, on arrive sur le bord du cratère et on voit ce cratère qui n'est pas parfaitement régulier, hein, qui est plus haut d'un côté que de l'autre et qui renferme un lac magnifique qui est tantôt vert foncé émeraude, tantôt vert plus clair, plus jade en fonction de la lumière. Donc on peut rester là pour admirer, puis si on veut on peut aller faire une balade un peu plus haut, on peut monter sur le point le plus haut pour voir également différents points de vue, moi c'est ce que j'ai fait. Puis après, on avait pu, alors à l'époque c'était pas interdit, enfin en tout cas on n'avait pas vu d'interdiction, on est allé une petite équipe là, carrément au bord du lac, parce que moi je voulais faire des prélèvements de cette eau acide, donc j'avais des bidons pour prélever, pour transmettre à un collègue. Donc on est allé jusqu'au bord du lac. Alors une fois au bord du lac, par contre, le lac n'est plus coloré. Hein. Il semble, on voit bien que c'est pas de l'eau douce. Hein. Il est plutôt un peu sombre, mais on voit plus cette couleur verte. Hein. Et en fait, c'est pas de l'acide pur. Hein. J'avais fait des mesures. Le souvenir que j'ai, c'est que, alors pour les gens qui connaissent un peu, ce qu'on appelle le pH, hein, qui mesure l'acidité, ça va de 0 à 14. Plus c'est près de 0, plus c'est acide. Donc moi, il y a des endroits où j'ai mesuré des pH quasiment nuls. En Éthiopie, à Dalol, au Kawajen, dont on parlait ensemble avec Thierry Robinet, on avait 0,15, 0,30. Là, on avait un pH de l'ordre de 3, 3,5, il me semble. Donc, c'est pas de l'acide pur. À la limite, on trempe le doigt dedans. Bon, voilà, c'est pas dramatique. Faut pas le laisser trop longtemps. Faut pas boire cette eau. Mais bon, c'est pas dangereux comme ça. Voilà. Et donc, c'est l'occasion d'aller. Alors maintenant, je sais pas, c'est peut-être interdit pour l'instant. Je ne sais plus où ça en était. Mais à l'époque, on avait pu y accéder. Ou peut-être parce que justement, j'étais scientifique. J'avais peut-être eu l'aval. Bon, c'était il y a quand même quelques années, je m'en souviens plus vraiment. Mais vraiment, ce Zao, c'est pour moi. Puis j'avais donc, alors j'ai fait la même photo que le timbre. Hein, j'avais avec mon timbre, j'avais fait une photocopie et j'ai vu l'endroit où ça a été pris. Donc maintenant, quand je fais une conférence, j'aime bien passer à la fois la photo de mon timbre, puis à côté le vrai Zao. C'est sympa aussi de voir que des rêves de gamins qui se concrétisent, qu'on relie un peu les deux bouts, qu'on ferme un peu l'histoire. Vous voyez, on a tous un peu des références, des paris ou des challenges. Et puis voilà, quand on réussit, on est vraiment content, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé pour le Zao. Et effectivement, les gens qui vont au Japon, qui sont à Tokyo et qui aiment les volcans, ils peuvent aller voir le Zao. C'est pas difficile et ça en vaut vraiment la peine.
Ah, c'est une belle histoire, le timbre, la boucle est bouclée en fait, hein, j'ai l'impression.
Exactement, voilà, je me dis, voilà, j'ai fait ça, on ne pourra pas me l'enlever, je l'ai vu. Ouais, c'est cette photo du Zao, bien sûr, maintenant, j'ai plaisir à la mettre dans certains de mes livres, hein, sur les volcans, c'est vrai qu'elle a une place souvent d'honneur, quoi. Alors là, skier près du Zao, ça doit être aussi très sympa, j'ai jamais fait, mais ça peut être très sympa. Puis alors l'hiver, s'il est dans un écrin de neige, j'ai jamais vu de photo du Zao l'hiver, ça pourrait être hyper sympa. Puis faire un trek en ski de rando autour du Zao, ouais, ça doit être très très sympa. Donc là aussi.
Mais alors si on installe une station de sport d'hiver autour d'un volcan, c'est que ce volcan est plus du tout actif ou comment ça se passe? Parce que ça comprend quand même quelques risques.
Oui, c'est un peu ambigu. Alors le Zao, on signale qu'il aurait eu une éruption en 1940. Ça serait a priori la dernière éruption du Zao. Hein. Alors c'est vrai que faire une station de sport d'hiver près d'un volcan potentiellement actif, c'est un peu au risque et péril de la personne. Hein. C'est vrai que ça a été le cas sur l'Etna. Hein. Il y a eu des téléphériques et des téléskis télésièges qui ont été montés sur l'Etna. Puis l'Etna, de rage lors d'éruption, après a quasiment fait fondre les pylônes par des coulées de lave. Hein. Donc c'est vrai que c'est moyennement rentable, ça dépend le cas. Alors là, peut-être c'est mis du bon côté. Et puis le Zao, bon, depuis 1940, ça fait quand même plus de 75 ans qu'il est inactif. Donc peut-être ça peut durer encore un temps. Donc voilà, après, c'est un pari. C'est peut-être pas des grandes stations non plus. C'est pas des investissements énormes. Voilà, c'est comme il y a une petite ville. Faut voir aussi qu'on peut pas non plus tout arrêter parce qu'il y a un volcan. Depuis 75 ans, il y a une petite ville touristique qui vit du tourisme. Donc c'est bien aussi. On est bien reçu. Donc là, pour l'instant, le Zao est plus un attrait touristique qu'un retrait volcanique, on va dire. Voilà, un petit peu.
Oui, et puis au nord de Honshu, il y a l'île d'Hokkaido, hein, l'île la plus au nord du Japon, où il y a un peu moins de volcans qu'à Honshu, mais il y en a quand même. Alors, on n'a peut-être pas le temps de passer en revue les volcans de Hokkaido aujourd'hui, mais est-ce que tu aurais une anecdote à partager sur une visite passée sur ce territoire?
Oui, alors Hokkaido aussi, il y a des volcans, il y en a pas mal, hein, notamment il y a le mont Uzu qui est célèbre. Puis Hokkaido, il y a des stations de sport d'hiver, hein, puis même les Jeux Olympiques ont été organisés là-bas. Hein. Une anecdote, eh bien, justement, c'est qu'il y a beaucoup de sources chaudes aussi. Puis comme c'est au nord et qu'il fait froid, l'hiver, il y a de la neige, il y a de la glace. Hein. Alors, il y a un endroit, il y a des sources chaudes. Et alors, les singes, des macaques, eh bien, en fait, ils viennent se baigner dans les sources chaudes pour se protéger du froid. Voilà, donc il y a des photos célèbres. On voit les macaques qui dorment presque, qui somnolent dans ces eaux chaudes, puis qui ont de la neige sur la tête. Hein. Ils ont donc sur leur poil de leur tête, ils ont un petit chapeau de neige. Puis eux, ils sont au chaud, un peu béat, voilà, un peu comme les humains. Donc là, on voit vraiment que nos cousins singes ont des réflexes humains, parce que là, on pourrait voir un peu des curistes qui profitent des bienfaits du thermalisme volcanique.
Ah, je me demande si j'ai pas vu cette image dans un film, le film Baraka, avec plein d'images du monde entier.
C'est possible, c'est assez célèbre. Bon, voilà, c'est parti un petit peu d'un must du Japon. Hein.
Alors maintenant, on va basculer totalement à l'opposé, hein, parce qu'il y a un volcan qui fait l'actualité depuis plus d'un an maintenant. C'est un volcan qui est au sud du Japon et qui est en train de littéralement naître et de sortir de l'océan. Alors ça, c'est assez fantastique. Il y a des vidéos, je pourrais mettre les liens éventuellement pour voir ces images incroyables. Mais il y a un volcan qui est en train de naître tout simplement à partir de rien, puisqu'il n'y avait que de la mer à cet endroit-là. Et maintenant, il y a un volcan qui grossit de jour en jour. Hein. Ça, c'est assez fascinant.
Oui, alors il y a des îles au sud du Japon, hein, qui sont des îles volcaniques. Alors il y en a qui sont assez près de la côte. Moi, je suis allé voir l'île d'Izu-Oshima. Donc ça, c'est une nuit de bac. Et puis on a une petite île avec un beau volcan qui s'appelle le Miharayama, que j'avais pu visiter à l'époque. Hein. Et puis il y a des îles beaucoup plus au sud du Japon. Alors celle dont tu parles, en fait, elle est à 1000 km au sud de Tokyo, en plein Pacifique. Donc il y a une éruption qui a commencé en novembre 2013. Donc ça fait plus d'un an, un an et quelques mois. Et c'est sorti au milieu de nulle part. Donc comme tu dis, c'est formé une petite île, mais qui était proche de l'île de Nishino-Shima. Donc il y avait une île voisine, mais c'était une autre île qui prenait naissance. Et cette éruption, bon, on pensait qu'elle allait durer quelques jours ou quelques semaines, mais elle dure toujours. Donc l'île a grandi, et là, en fait, elle s'est rejointe à Nishino-Shima, donc c'est devenu en fait une grande île. Et puis en fait, comme ça a continué, ben, on va dire que les dépôts du volcan ont recouvert l'ancienne île, donc il ne reste quasiment plus rien. C'est une grosse île, donc le nom est resté Nishino-Shima, et ça dure depuis plus d'un an, et maintenant, à raison de chaque jour, il y a un petit cône au centre de l'île qui libère des cendres et des coulées de lave, qui augmente l'île. Donc là aussi, c'est un côté positif du volcanisme, c'est que le volcan crée des terres qui seront viables, qui seront habitables, qui seront cultivables. Hein, donc c'est vrai dans le monde entier. Il y a plein d'îles comme la Réunion, les Antilles, la Polynésie française et bien d'autres qui sont des îles volcaniques, d'origine volcanique, qui ont créé un territoire, un endroit pour vivre. Donc cette île maintenant, elle fait 2,5 km, hein, donc c'est pas mal. Elle fait 100 mètres de haut. Et elle filme toujours. Alors maintenant, elle s'agrandit moins parce que, bien sûr, les nouvelles coulées recoulent sur les anciennes. Hein, donc, elle s'épaissit, elle se stabilise, elle se génère bien. Est-ce qu'elle va grandir ou pas, on n'en sait rien. Mais voir cette éruption qui dure depuis un certain temps, c'est effectivement assez étonnant. Puis ça modifie, on va dire, de jour en jour, un peu la map monde.
Et là, est-ce que c'est un phénomène qu'on peut observer, parce que c'est quand même en pleine mer, donc je pense que c'est un petit peu délicat là pour y aller.
Hein. Ouais. Alors pour l'instant, on a eu que des données des gardes-côtes japonais qui faisaient des allers-retours en avion, qui faisaient des images, et j'ai entendu dire que il y a quelques jours, pour la première fois, je crois que des scientifiques ont pu accoster sur l'île. Hein. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas si facile que ça, parce que c'était actif. Donc là, je crois que c'est quand même loin de tout. Donc là, il y a quand même une première mission qui a accosté et qui a fait une première, état des lieux, une estimation de voir ce qui se passait. Voilà, donc on aura probablement les résultats scientifiques hein, de ce qui se passe actuellement, mais sinon c'est pas facile. Hein. Là par contre, au niveau touristique, d'abord je crois que c'est interdit, puis c'est très loin, c'est très compliqué, c'est 1000 km, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de ligne régulière bien sûr, pour une île qui sort de nulle part. Donc là, ça reste plutôt, oui, comme tu dis, pour aller voir sur Internet, voir les liens, puis rêver un petit peu, quoi.
Ça rappelle un petit peu le Krakatoa, hein, qui est rené au début du XXe siècle, hein, après la terrible explosion, la terrible éruption de 1883, ce volcan qui est ressorti de l'eau. Hein.
Oui, des volcans qui sortent de la mer, qui créent des îles, c'est, je veux pas dire que c'est fréquent, mais c'est quelque chose qui est connu. Hein. Il y a eu l'éruption de Surtsey au sud de l'Islande en 1963, il y a eu l'éruption de Capellinos aux Açores en 1957, il y a eu récemment également au Tonga, au large des Tonga, il y a une île qui est sortie. Ça arrive de temps en temps. Alors, c'est vrai que parfois, ces îles, elles sortent, puis après, elles s'effondrent, elles retombent dans les eaux, puis parfois, elles continuent bien. Et c'est comme ça qu'un jour, Hawaï est sorti de la mer, et puis maintenant, c'est une île qui fait 4200 mètres de haut. C'est comme ça que Tahiti est sorti de la mer, et maintenant, c'est une île qui fait 2200 mètres de haut. Voilà, donc après, il y a des îles qui profitent bien. Donc, peut-être que l'île de Nishinoshima va peut-être avoir un destin important, va faire après vraiment une île importante qui, un jour, peut-être sera habitée par des humains, va se créer un petit port, il y aura de la pêche, il y aura... des oiseaux qui vont venir, des insectes, ça va devenir un petit écosystème, ou alors, comme c'est le cas sorti en Islande, ça va être protégé, on va dire que c'est interdit aux humains pour que ce soit un laboratoire naturel, que la nature ait tous les droits pour s'installer, que les insectes s'installent, que les mousses, les lichens, puis après les végétaux, les fleurs, sont amenés par des graines, puis on verra comment se forme un nouvel écosystème sans que l'homme y mette le pied et puis puisse se polluer ou ait une interaction trop forte. Voilà, ça sera peut-être le cas.
Ouais, ça sera intéressant à suivre si on voit ça de notre vivant, parce que c'est pas dit. Hein. Ok, alors merci beaucoup Jacques-Marie, c'était vraiment un très très bel aperçu des phénomènes volcaniques et puis de ces montagnes à visiter au Japon, si le cœur vous en dit. En tout cas, moi ça m'a donné très envie. Alors avec le recul que tu as, tous les volcans que tu as vus dans le monde, tous les continents que tu as arpentés, comment tu comparerais le Japon à d'autres pays? Comment tu classerais ces volcans? Est-ce qu'il y a un moyen de les classer d'ailleurs? Est-ce qu'il y aurait des particularités que tu as vues au Japon que tu n'as pas vues ailleurs?
C'est-à-dire qu'il y a tellement de volcans au Japon qu'il y en a un petit peu de chaque catégorie. Hein. Il y a des volcans géants comme le Fujisan, qu'on appelle un peu des stratovolcans, c'est-à-dire des volcans stratifiés qui font tantôt descendre, tantôt des laves. Le Sakurajima, il est parfois strombolien, un peu comme le Stromboli, parfois vulcanien comme Vulcano. Le Mont Zen, il est plutôt péléen, on l'a dit, donc un peu comme la montagne Pelée ou comme le Puy de Dôme. Il y a un peu de tout, donc c'est vrai qu'aller au Japon, c'est une très belle école en volcanologie. Il faut savoir d'ailleurs que les volcanologues japonais sont au top, hein, font partie des meilleurs spécialistes de mondiaux. Donc c'est vrai qu'aller au Japon, c'est vraiment intéressant. Moi, j'y suis allé deux fois, j'en ai vu qu'une partie, j'ai vu beaucoup de choses. J'espère bien y retourner, donc je connais moins Hokkaido, donc c'est possible que j'y retourne, j'ai prévu d'essayer d'organiser un autre voyage à Hokkaido pour compléter ce que je connais déjà. Ce que je dirais quand même, c'est que c'est peut-être l'un des pays les plus dépaysants du monde, hein. C'est vrai que je suis allé en Papouasie par exemple, et bien le Japon, il y a tellement une culture différente, cette tradition des repas, des bains, de se mettre en kimono, voilà, il y a tellement une tradition différente, dès qu'on est dans le Japon un peu traditionnel, puis on est vraiment dépaysé, puis après on est pris par le charme, et ces volcans, en fait c'est vrai que les Japonais les considèrent, sont ni gentils ni méchants, ils sont comme ils sont, hein, avec leur bon et leur mauvais côté, ils font partie du paysage, ils font partie de la famille, ils font partie de l'écosystème. Voilà, donc respect.
Oui, c'est passionnant. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller au Japon alors que 3 semaines, mais c'était pour le travail et c'était à Tokyo. Bon, j'ai quand même fait un petit crochet par Kyoto, mais j'ai pas encore vu de volcan, si ce n'est le mont Fuji, parce qu'en fait, au retour, petite anecdote, donc sur le vol retour de Tokyo à Singapour, à un moment, donc tout le monde dormait plus ou moins dans l'avion, et à un moment, le pilote a dit vous devez regarder à droite parce qu'on survole le mont Fuji, et on était juste au-dessus, et c'était la lumière du soir, hein, donc vers 18h30, 19h, à coucher de soleil, avec un ciel rougeoyant, c'était magnifique, et je me suis dit, un jour je serai là-haut, c'est pas possible autrement, il faut que j'y aille, donc je m'étais renseigné, je crois que Fuji, c'est juillet-août, hein, la meilleure période pour le grimper, et je crois d'ailleurs qu'on peut pas le grimper à d'autres périodes de l'année, mais en tout cas, ça m'a donné envie énormément d'y retourner grâce à tes explications, grâce à ta connaissance sur le sujet. Et puis je conseille à tout le monde, alors si ce n'est pas d'aller au sommet des volcans ou autour des volcans du Japon, en tout cas de consulter tes livres parce que tu as une très très riche bibliographie sur le sujet. Alors on va pas citer tous les livres que tu as écrits parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je crois que le dernier en date, hein, c'est Les volcans pour les nuls, si je me trompe pas, qui offre vraiment une vision vulgarisée des volcans, hein, c'est ça?
Alors il s'appelle en fait Pour les nuls présente les volcans, donc chez Grün. Effectivement, c'est un livre qui est à la fois sérieux mais qui est très marrant parce qu'il y a deux illustrateurs sympas qui ont collaboré avec moi, donc il y a à la fois des dessins sérieux mais également des dessins humoristiques, il y a des anecdotes, il y a des blagues, donc c'est en s'amusant. Alors pour les nuls, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas respectueux, c'est au contraire un clin d'œil humoristique, c'est-à-dire que pour tous les gens qui ne connaissent pas les volcans mais qui les aiment et qui s'intéressent, en partant de zéro, on a une bonne idée pour aller un peu plus loin qu'uniquement les admirer et les regarder, c'est comprendre un peu leur variété, le pourquoi du comment. Voilà, donc c'est scientifique, c'est simple, et oui, c'est pour tout public, pour les grands, pour les jeunes, pour ceux qui aiment les volcans.
Et ben en tout cas, on mettra le lien, je mettrai le lien sur la page de l'épisode sur le site web, et puis je mettrai le lien aussi vers les différentes ressources te concernant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à ton sujet sur internet pour se documenter, les différents livres que tu as écrits, les différentes interventions. Pour finir, peut-être la cerise sur le gâteau. Moi j'ai vu cet épisode d'Ushuaïa, donc qui datait, je crois, de la fin des années 90, tourné en Indonésie. Et puis il y avait ce moment très très fort dans l'émission où tu naviguais avec Nicolas Hulot sur le lac du Kawaijen. Et je sais, pour connaître très bien Thierry et puis pour en avoir parlé aussi avec toi, qu'en fait tu avais déjà navigué juste avant avec Thierry pour préparer ce passage de l'émission. Donc je voulais juste te demander, voilà, ce que tu as ressenti à ce moment-là, et puis aussi comment est venue cette folle idée, parce que bon, naviguer sur le lac d'acide chlorhydrique et sulfurique le plus vaste du monde, quelle idée de faire ça?
Oui, effectivement, ça reste un de mes très grands souvenirs de ma vie de volcanologue avec Nicolas Hulot et Thierry Robinet. C'est vrai que, alors ça avait été fait, cette navigation, justement Maurice Kraft, qui était assez fou, avait navigué sur un petit zodiaque dessus. Et alors l'idée, c'était effectivement, bien sûr, à la fois de faire une séquence, comme on dit, émotion dans le cadre de Ushuaïa Nature, mais scientifiquement, l'intérêt, c'était d'aller au centre du lac pour faire un prélèvement, on va dire, qui serait vraiment représentatif du lac. Parce que quand on prélève au bord du lac, eh bien, d'un endroit un autre, ça change les eaux, parce que parfois il y a des petits ruisseaux qui arrivent qui mélangent leur eau, il y a un autre endroit, au contraire, il y a une petite crique, ça s'évapore, donc il y a des variations de température et de pH, que si on va au milieu du lac, on fait un prélèvement, on a exactement ce qu'on appelle une fraction aliquote du lac. Donc c'était un peu l'idée scientifique, bien sûr, avec un côté, on va dire, un petit peu passion, émotion, frisson, hein. Donc il fallait prévoir un zodiaque qui fonctionne. Également, bien sûr, comme c'est une émission télévisée, il fallait avoir deux autres zodiaques, un pour l'équipe son, un pour l'équipe image. Donc là, c'est Thierry Robinet, justement, qui s'occupait un peu de tout ça. Et puis effectivement, comme avec Nicolas Hulot, on filmait sur plusieurs volcans à la fois, il y avait toujours plusieurs équipes, donc il se trouve qu'on est parti devant avec Thierry Robinet et puis quelques autres, commencer à faire le repérage de ce lac, voir si l'approche était possible, si la navigation était possible. Donc c'est vrai qu'au début, les répétitions, j'étais avec Thierry Robinet, Thierry jouait un peu le rôle de Nicolas, il me posait des questions, puis souvent voir comment c'était faisable ou pas. On n'est pas allé jusqu'au centre du lac, on a commencé un peu à faire du cabotage au bord du lac, on a vu que c'était possible. Donc voilà, c'est vrai que je m'étais bien entendu avec Thierry, parce qu'on était tous les deux dauphinois, mais c'est vrai que cette histoire nous a tout jamais lié, parce que quand on fait ça, c'est étonnant. Puis donc le lendemain, avec Nicolas, on a fait cette navigation qui s'est très bien passée, mais il faut savoir quand même que le lac fait 700 mètres de diamètre. C'est de l'acide chlorhydrique et sulfurique pur, pH 0,15 à 0,30. Et au début, donc, on était au bord du lac, il y avait donc les deux autres... deux autres zodiaques avec l'équipe son et puis l'équipe image. Puis à la fin, on a voulu faire une image de Nicolas et moi au centre du lac. Donc on est partis que tous les deux au centre du lac pour avoir une vue d'hélicoptère où on a un petit point rouge, notre petit zodiaque perdu dans l'émeraude du lac. Et donc j'étais avec Nicolas au centre du lac, on attendait l'hélicoptère. Et là, il fallait savoir, il y avait 300 mètres d'acide autour de nous, 300 mètres d'acide au-dessous de nous. Et là, on est tous les deux, c'était à la grâce de Dieu. On dit, voilà, s'il y a n'importe quoi, s'il y a une petite perçure dans le zodiaque, bon voilà. Mais inversement, là, on était tous les deux. On dit, voilà, maintenant, on remet notre vie à qui de droit. Et puis voilà, c'était une demi-heure que tous les deux, on va dire entre ciel et terre. Puis après, on est revenu tranquillement à la rame. Puis on a vu que ça se rapprochait, que la côte se rapprochait. Puis voilà, on se dit, voilà, là, on a fait un voyage là où peu de gens sont allés. Et c'est vrai que je remercie l'équipe d'Ushuaïa de m'avoir fait vivre cette émotion. C'était fin 97, hein. Donc voilà, oui. Ma fille venait de naître, hein, ma fille Jade. Donc justement, dans l'émission, on disait bien que le lac était vert Jade. C'était un clin d'œil. Et je vois, ma fille, elle va avoir 18 ans. Donc ça va faire 18 ans qu'on a fait cette émission avec Nicolas Hulot, qui a été diffusée, je crois, en 98. Puis qui est bien sûr diffusée régulièrement sur... la chaîne Ushuaïa.
Une belle histoire, un grand moment de télévision, moi ça m'avait beaucoup marqué. Et ben merci beaucoup Jacques-Marie, c'était vraiment enrichissant, j'ai beaucoup aimé le panorama des volcans du Japon. J'espère qu'on te retrouvera bientôt dans l'émission, si tu veux revenir pour parler d'autres volcans en Asie, la porte est grande ouverte en tout cas. Et puis je te laisse finir avec le mot de la fin.
Bien, merci pour ton accueil. Effectivement, donc l'Asie, c'est un grand pays tellurique de séismes et de volcans. Donc, on pourra reparler d'autres volcans d'Asie, pourquoi pas des Philippines, par exemple. Un pays assez étonnant. Merci pour ton accueil. Merci aux auditeurs pour leur intérêt. Et puis, bon volcan, bon Japon à tous.
Merci beaucoup, Jacques-Marie. À très bientôt. Et encore un immense merci à Jacques-Marie Bardanzef pour avoir très gentiment accepté l'invitation et d'avoir accepté de parler des volcans du Japon dans l'émission. En plus, c'est quelqu'un de, voilà, de très important et de très occupé, comme on peut l'imaginer. Donc c'était vraiment un énorme honneur pour moi de pouvoir l'interviewer et j'espère qu'il reviendra. En tout cas, l'invitation est lancée. J'espère en tout cas que vous avez eu votre dose d'aventure et que vous avez maintenant envie de prendre un billet d'avion et d'aller explorer par vous-même les volcans du Japon, bien sûr, toujours dans la limite de la sécurité et du respect de la nature. Vous retrouverez sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/30 et puis /29 pour l'épisode précédent tous les noms des volcans dont on a parlé. Et puis j'ai aussi mis le lien vers le livre de Jacques-Marie et également des liens vers des ressources le concernant puisqu'il y a beaucoup de choses à son sujet et au sujet de ses travaux que vous pouvez retrouver sur le web. On n'en a pas parlé, mais Jacques-Marie tient aussi un blog très intéressant à suivre, donc je vous encourage à le faire, et qui s'appelle Volcanmania. Vous retrouverez également le lien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette émission ou sur les autres. J'ai envie de citer aujourd'hui S.G. Claire qui m'a mis sur iTunes ce gentil commentaire. Envoûtant et passionnant, j'ai découvert par hasard les podcasts sur les routes de l'Asie et je suis totalement conquise. L'interview est bien structurée et rythmée, les questions sont bien senties et les réponses permettent vraiment de s'imaginer dans la peau d'un explorateur. Les interludes musicaux permettent à l'interview de conserver un bon rythme. Le contenu est accessible à tous et bien équilibré entre conseils sur le voyage, anecdotes et contenu plus informatif sur la culture, à écouter absolument. Fin du commentaire, et merci beaucoup à toi Claire pour ce long et gentil commentaire. Faites de même, si vous avez une minute de votre temps, laissez-moi un petit mot sur iTunes, le site web, Facebook ou Twitter. Je prendrai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à vous citer dans l'émission. Dans le prochain épisode, l'épisode 31, nous allons revenir dans la République de Chine, en fait Taïwan, pour découvrir un peu plus en détail la ville de Taipei. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.